Pues ya otro día nos vamos a juntar.
Il est 5h en temps universel, une heure de plus à Rabat, 7h ici à Paris.
Clotilde Dumay.
Et dans quelques heures, ce sera le coup d'envoi du premier quart de finale du Mondial de football France-Maroc. Bonjour à tous, on va largement revenir sur ce choc entre les deux nations tout au long de ce RFI matin. Aux côtés des supporters français et marocains, on les écoutera d'ailleurs dans quelques minutes dans votre journal. Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Clotilde, à la une également la canicule qui continue de s'étendre en Europe et notamment en France. 72 départements placés en vigilance orange aujourd'hui. La troisième vague de chaleur en un peu plus d'un mois seulement s'installe jusqu'à la semaine prochaine et inquiète les éleveurs qu'on va entendre dans un instant. À la une également une nouvelle nuit de frappes américaines sur l'Iran et de ripostes de Téhéran dans le Golfe. Donald Trump souffle le chaud et le froid sur la question des négociations. On part aussi au Venezuela où le bilan du double séisme continue de s'alourdir et où la solidarité qui comble encore l'absence de l'État dans les ruines.
Un nouveau triste record climatique dévoilé ce matin.
Par l'Observatoire climatique de l'Union européenne, le programme Copernicus révèle que l'Europe occidentale a connu le mois de juin le plus chaud de son histoire, et ce n'est pas vraiment une surprise, alors que la canicule de la fin du mois a vu les températures atteindre des niveaux inédits dans plusieurs pays. Le réchauffement climatique causé par l'activité humaine se manifeste cet été plus que jamais sur le continent européen. Une troisième canicule en un peu plus d'un mois s'abat en ce moment, notamment sur la France. 72 départements placés en vigilance orange ce matin et un épisode sévère et durable selon Météo France. La France qui a eu à peine une semaine de répit et les conséquences des vagues de chaleur à répétition qui se multiplient notamment pour l'agriculture. Plus de 9000 tonnes d'animaux morts ont été déjà prises en charge par l'État. Les élevages les plus touchés se situent dans le Grand Ouest et tout en essayant de s'adapter, les éleveurs sur place ne cachent pas leur inquiétude. Reportage en Charente, Jeanne Bartoli.
C'est vrai que quand la semaine dernière, il y a 15 jours, ils avaient annoncé les 43 degrés qu'on a eu. Waouh, j'étais vraiment inquiet. J'ai dit, mais comment ça va? Les animaux vont réagir?
Bertrand Feunier est éleveur porcin à Rouillac, un élevage hors sol, des bâtiments fermés. De quoi inquiéter alors que le dernier épisode de canicule a fait trembler les éleveurs?
Ouais, un éleveur qui a perdu 17 truies au moment de la mise bas par des fortes températures, 34 dans les salles et les truies n'ont pas supporté.
Bertrand Feunier, lui, n'a perdu que 3 porcelets grâce à un système de cooling, une brumisation qui fait descendre de plusieurs degrés la température à l'intérieur des bâtiments. Et les éleveurs hors sol ne sont pas les seuls à souffrir. Éric Germont est paysan bio à la tête d'un petit cheptel de vaches limousines, un modèle d'élevage qu'il revendique.
Je pensais être blindé pour 2050 et on se rend compte que même moi je souffre. On aura quand même une longueur d'avance, on souffrira moins que les autres.
Pourtant à 39 degrés à l'ombre, même lui a dû adapter son travail.
Ben oui, le matin en fait il faut se lever aux aurores. Quand il fait vraiment chaud, ben, je me lève à 5h30. Puis dès à 6h, ben, je suis dans les vaches pour les manipuler ou les changer de champ. Parce qu'en fait, ben, à cette heure-là, c'est encore frais. Et puis elles ne sont pas agressives. Mais le souci c'est que On commence tôt le matin, on finit tard le soir, même si l'après-midi, je fais une grosse sieste, bah, tranquillement, en fait, on s'épuise un petit peu.
Placé en vigilance orange, le département de la Charente devrait connaître jusqu'à dimanche des maximales supérieures à 40 degrés. Jeanne Bartoli, de retour de Rouillac et Chabanais. RFI.
Et la canicule couplée au manque de pluie et au vent chaud qui fait aussi se multiplier les incendies. 7800 hectares ont brûlé en France depuis le début du mois de juillet. Un jeune pompier est mort hier en Savoie alors qu'il combattait l'un d'entre eux. Le Haut Conseil pour le climat affirme à l'instant que la France n'est pas prête face au réchauffement climatique. Il évoque des politiques insuffisantes et la nécessité d'un changement d'échelle.
Dans l'actualité également, Julien, une deuxième nuit consécutive de frappes américaines sur l'Iran.
3 morts dans l'ouest du pays selon un média d'État. Et la riposte habituelle désormais de Téhéran dans le Golfe. L'armée américaine affirme avoir visé 90 sites dans le pays, alors que les gardiens de la Révolution affirment avoir répondu par des attaques sur les bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Donald Trump a estimé hier que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran était terminé après des frappes imputées à l'Iran sur des navires dans le détroit d'Ormuz. Mais il souffle une fois de plus le chaud et le froid, Vincent Souriau.
D'un côté, il y a cette nouvelle salve de frappes violentes le long des côtes iraniennes. Explosions signalées dans au moins 2 localités proches du détroit d'Ormuz, ainsi qu'autour de la ville portuaire de Bushehr qui abrite une centrale nucléaire civile. L'armée américaine répète qu'elle tient l'Iran pour responsable des récentes attaques visant des navires commerciaux, après que Donald Trump s'en est pris de manière outrancière hier aux responsables iraniens qu'il a traités d'ordures, de vicieux et de menteurs, menacés de rétablir le blocus maritime et de s'en prendre à des infrastructures civiles. De l'autre, il y a cette porte ouverte très floue à une éventuelle poursuite des négociations. Le président américain écarte une reprise durable des hostilités. Il maintient que l'Iran veut à tout prix conclure un accord et il laisse à son équipe de négociateurs le soin de maintenir le dialogue. Autrement dit, retour à la case départ après l'échec des discussions techniques de Doha il y a 8 jours. Malgré la communication très optimiste de la Maison-Blanche fin juin au moment de la signature du protocole d'accord, il n'y a toujours pas de consensus sur les 2 sujets cruciaux que sont le programme nucléaire de l'Iran et le contrôle du détroit d'Ormuz. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et l'Iran qui continue d'adopter une position inflexible sur le détroit d'Ormuz, il ne sera ouvert que selon des dispositions iraniennes, affirme ce matin le négociateur en chef de Téhéran.
Donald Trump qui souffle aussi le chaud et le froid sur l'OTAN.
Après avoir maintes fois menacé de la quitter, après de nouvelles critiques à Ankara, le président américain a finalement rassuré ses alliés hier en affirmant vouloir rester dans l'Alliance Atlantique. Il a aussi franchi un cap dans son soutien à l'Ukraine en autorisant le pays à produire des missiles Patriot sur son territoire. À l'issue d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky, la Russie fustige des décisions irresponsables alors que les 32 pays de l'OTAN ont réaffirmé hier leur soutien à Kiev.
C'était il y a tout juste 1 an à la Maison Blanche.
5 chefs d'États africains, les dirigeants du Libéria, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Gabon étaient reçus à Washington et Donald Trump vantait devant eux le grand potentiel économique du continent. Leur rencontre s'était concentrée sur des questions de relations commerciales, d'investissement, mais surtout les minerais stratégiques contenus dans le sol de ces pays. Quelles avancées un an après ? Qu'a permis ce voyage ? Alexis Bédu, un accord cadre est en passe d'être signé avec Nouakchott et le Gabon multiplie également les discussions.
Le manganèse gabonais est vital pour Washington, dépendant de ce minerai essentiel pour les batteries électriques. S'il n'y a pas eu d'accord global signé, le contact est permanent, nous dit-on. La société américaine Millennial Potash poursuit, elle, son projet de mine de potasse à Mayumba, dans le sud du pays. Côté mauritanien, on se réjouit. Un accord cadre devrait être signé dans les prochaines semaines. C'est ce qu'assure Ahmed Taleb Mohamed, conseiller technique au ministère des Mines de Mauritanie.
Les relations avec les États-Unis sont exemplaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux pays et on travaille sur un cadre de coopération dans le domaine minier. On s'oriente beaucoup plus vers ces minéraux stratégiques, ces minéraux du futur. C'est le lithium, les terres rares.
Au Libéria, la marotte américaine, c'est le Liberty Corridor, un chemin de fer qui permettrait l'acheminement du fer guinéen des monts Nimba vers le port de Buchanan au Libéria. Mais le projet porté par la société américaine Ivano semble patiner. Le Sénégal est toujours en cours de rédaction de son nouveau code minier. Aucune annonce majeure avec les États-Unis. En Guinée-Bissau, le dossier central, c'est le pétrole. Le producteur américain Chevron a acquis il y a quelques mois 2 nouveaux permis d'exploitation offshore.
Alexis Bédu.
Ils sont les derniers Africains africain en lice à la Coupe du Monde de football. Les Lions de l'Atlas défient ce soir les Bleus.
Le Maroc face à la France en quart de finale du Mondial, 4 ans après avoir perdu 2-0 face aux Bleus en demi. Le sélectionneur marocain Mohamed Wahbi l'assure aujourd'hui. Ils joueront ce match le couteau entre les dents. Et la détermination n'est pas moindre chez les supporters marocains qui seront ce soir en tribune à Boston. Frédéric Suto les a rencontrés.
On se voit tous les supporters du Maroc ici. On s'est donné rendez-vous parce que pour nous, les supporters du Maroc, c'est très important.
Ils se sont donné rendez-vous au Boston Common, le plus ancien parc de la ville et même des États-Unis. Des supporters marocains dans toutes les allées en cette fin d'après-midi. Des drapeaux rouges et verts, retrouvailles et répétition générale avant le match de ce jeudi.
Je l'ai vu tous les matchs, sauf à Haïti et l'Hollande.
J'étais à Houston et j'ai abandonné mon billet d'avion et je suis venu à Boston.
Il y a ceux qui viennent du Canada ou qui vivent ici aux États-Unis et il y a tous ceux arrivés le matin même du Maroc. 12 vols spéciaux ont été affrétés.
Exceptionnel qui font de Casablanca à Boston. On est venu, le vol était rempli.
Et comment vous avez été choisi? Enfin, comment ça se passe quand on est au Maroc et qu'on veut venir?
C'est premier arrivé, premier servi. Oh, arrête de parler en tant que moi.
Le soleil décline, gardez des forces pour le match, c'est l'heure des pronostics.
1-2-1 pour le Maroc ou 3-2 pour le Maroc?
Mon souhait, c'est que Mbappé, Dembélé et Olise ne soient pas en forme.
Frédéric Suto, Boston, RFI.
France-Maroc, premier quart de finale de cette Coupe du Monde à partir de 20h, temps universel, match à suivre en direct et en intégralité sur RFI si vous nous écoutez en Afrique.
En attendant, il est 1h10 à Caracas. Le Venezuela continue de compter ses morts.
Deux semaines après le double séisme qui a frappé le pays, les chiffres officiels font état désormais de 3811 décès. Le nombre de disparus oscille entre 10 000 et 50 000 selon les estimations. Deux semaines après, le manque d'action des autorités est toujours critiqué. Et c'est pour l'instant sur la solidarité qu'il faut toujours compter, notamment pour se faire soigner. Alice Campagnol.
Maribel Sanchez est chirurgienne esthétique à Caracas. Depuis le tremblement de terre, elle a abandonné sa clinique et tous les jours, elle vient dans ce quartier où plusieurs tours se sont effondrées.
Votre tension est un peu élevée. Cherche-moi le captopril dans les antihypertenseurs. Il y a beaucoup d'hôpitaux de campagne qui ont vraiment de tout, c'est vrai. Mais les gens ne vont pas abandonner les lieux. Ils ont leurs proches ici, enterrés sous les débris. Donc, ou bien les médecins, nous venons sur place, ou bien les patients décompensent.
Le coffre de son 4x4 fait office de pharmacie. Elle a installé une table en plastique, deux tabourets et les patients défilent. Les besoins sont grands pour toutes les familles qui organisent désormais leur vie dans la rue face aux ruines.
Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu des patients déshydratés, extrêmement affaiblis, des problèmes de peau dus au soleil ou à la gale, à cause des conditions dans lesquelles ils vivent et ils dorment ou à cause des habits qui leur ont été donnés.
Si la solidarité des Vénézuéliens pallie pour le moment l'absence de l'État, Maribel et tous les volontaires devront bientôt retourner à leur vie quotidienne. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et pour financer la reconstruction, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, annonce de son côté avoir demandé au roi Charles III.
face, who you're smiling to. Tell me the truth, but I've got nothing left to prove, baby. I've got nothing else inside, no. Take your time and carry on. Don't go back, 'cause I'll be gone. Nothing, nothing left to prove, baby. Cry, 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 taking it back from you. Cry, cry, 'cause there's nothing left of you. Thank you.
chers auditeurs du troisième âge, c'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence.
Principe Actif, le mix des cultures. Dans le sud de l'Eure, 95.9, à Évreux, 102.4.
Ça va, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Ntereni, ntereni ngabe disa, nijarabi ma feganyala nyina. Ntereni, ntereni ngabe disa, nikanu. I want to know.
La marche quand je ne vois pas les marques, comme mon allure de feignant des contracts, ton boîte trop marque, pas souris. Je lâche pas le beefsteak, vu que j'ai trop de bons feedbacks. Je lève les yeux, elle fait pas gaffe aux vannes et aux marques toutes pourries. J'ai transformé les CSA, mes proches le savent. Tiens jamais en place, comme le diable de Tasmanie. J'en ai déjà payé les frais, ça aussi mes proches le savent. Et j'en ai pris des baffes en clash depuis que la vache manie. Depuis que le rap m'anime, je rate ma feuille, casse ma mule, bouge la tête, prise le beat, couche mes rimes et chante la nuit. Je vois pour cause à effet, pour ça mes mots je les dose aussi au style. Lorsque le style ose,
grosse balle, c'est lui qui les pèse. Joueur de bowling, rouleur de barreau de chaise. Seul dans ma tête, paupières alourdies, les faux MC, je les baisse. Dyslexique comme pas possible, artiste local, je me proclame. Et c'est philosophique et punchline au programme. Quand tout le monde se la ferme, c'est toujours moi qui l'ouvre. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. Touche droit de ton fun tel, TEF tu l'épelles. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. Def le scalpel, le pic le patient. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'écoute ce qu'on me dit et pas ce qu'on me gueule. Yo, TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'aime quand la pluie tombe, quand mes mots s'envolent au plus haut, au-dessus des nuages, là où il fait plus beau. Quand leur dos dort au soleil, quand je trouve pas sommeil, mes mots tête sur un pic de red sol, quelle merveille. Touche droit ton fun tel, la feuille blanche mon cheptel. Le thème un détail, amour, violence ou querelle. Individu charismatique que la paresse habite quand on caresse ma bite. Un Paris-Dakar sans 4-4 à 4 pattes au bec. Un sablé me donne un sale phrasé. Des dunes, non des tonnes, mes mots étonnent, sur eux je déteins. Ils ont la couleur de ma vue, le goût de l'alcool quand j'ai bu. Fin d'écriture fine de la fin au début. Yo, lâche l'affaire MC, la peine ce n'est pas. Pas de croix en bois ici, non la chance ce n'est pas. Pas de fer à cheval autour du MIC, juste du taf. Rapper derrière moi est une gaffe, ma gueule invite à la baffe. Mon flow, 10 ans de mariage avec la basse. Ma vie, le cancre du fond de la salle. Le style, l'époque où le rap avait la classe. La suite, TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. Quand tout le monde se la ferme, c'est toujours moi qui l'ouvre. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. Touche droit de ton fun tel, TEF tu m'épelles. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. Def le scalpel, le pic le patient. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'écoute ce qu'on me dit et pas ce qu'on me gueule. Yo, TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. D'abord j'ai taffé l'écriture avant de dire que j'avais rappé. Un peu, comment te dire, réfléchir avant de parler. Règle numéro 1, oubliée par la plupart, qui s'imaginent en haut de l'affiche le soir dans leur pluma. Le rap français n'est pas en cause, mais la valeur de celui qui le pratique. Sans technique, sans compter la maigreur de la prose qu'il propose. Et l'impression d'être seul, impatient de rencontrer les bons. Les têtes d'affiche de ma ville écoute pas et j'aime pas cirer les pompes. J'irai chercher ailleurs, sûr que le mouvement n'est pas mort. Marre des ratés, des vieux loups de mer incrustés dans le décor. Et puis 12 ans je continue, j'écris et puis mes continents de verre, tous les continents. Racontant des trucs qui montent, mais toujours tranquillement. Vu que j'aime taquiner les cons, les faux MC, que ça vend des vies et se prendre dès le premier compliment. Le rap français, c'est pas de la soul ou de la funk. C'est l'expression orale de rage gratuite comme la crête d'un punk. Le sucre brisé sur mon dos caramélise avec ma sueur, mes casse la tienne. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. Quand tout le monde se la ferme, c'est toujours moi qui l'ouvre. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. Touche droit de ton fun tel, TEF tu m'épelles. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. Def le scalpel, le pic le patient. TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'écoute ce qu'on me dit et pas ce qu'on me gueule. Yo, TEF au mic, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est comme ça qu'on m'appelle. LA City, la Californie à 2h de Paris.